Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Terre promise ou enfer. Terre promise ou enfer est une émission produite par l'organisation Initiative chrétienne pour la paix, la réconciliation et le développement ICPRD. ICPRD est une organisation active dans le territoire de Mwenga, œuvrant dans la promotion de la paix, la pacification, la bonne gouvernance des ressources naturelles, ainsi que le business et les droits humains, en collaboration avec ses partenaires dont la MONUSCO, les MCC et la Fondation RAFTO. La République démocratique du Congo est un géant. Elle est 6 fois plus grande que la Norvège et possède la 2e plus grande forêt tropicale du monde. On nous dit souvent que nous marchons sur de l'or, de l'étain, du lithium, des minéraux essentiels pour la technologie mondiale. Pourtant, c'est le paradoxe qui nous réunit aujourd'hui. Comment un pays si riche peut-il abriter une si grande richesse mais avec une population pauvre? Pourquoi ces richesses alimentent-elles des conflits et la mauvaise gouvernance? Pour en parler, et surtout pour parler des solutions, je reçois aujourd'hui Dr Isokelo Fama, conseiller au programme de l'ICPRD. Docteur, bonjour.
Bonjour.
ICPRD surveille les chaînes d'approvisionnement minier, surtout les fameux 3T, étain, tungstène, tantale, or, depuis 2020. Vous avez même assisté au forum de l'OCDE en 2024. Quel est le constat que vous avez fait aujourd'hui, spécifiquement dans les territoires de Mwenga?
L'ICPRD en soi, comme organisation basée au Sud-Kivu, nous avions d'abord remercié nos partenaires qui nous ont permis de participer à tous ces forums portant sur la capacitation et aussi ouvrant un accès au site de plaidoyer plus élargi par rapport aux minéraux. Ce serait difficile pour moi de vous dire que nous faisons le monitoring dans les chaînes de minéraux, dans la chaîne d'approvisionnement. L'ICPRD est plutôt une organisation qui souffre de l'insuffisance de l'impact de l'exploitation minière dans les sites Kivu et particulièrement dans les territoires de Mwenga, et cela depuis des décennies, mais qui s'est exacerbé dans les 5 dernières années depuis l'avènement de toutes ces entreprises chinoises que nous voyons chez nous. Ceci étant, nous avions pris l'initiative de rendre effectives les redevabilités accessibles ou nécessaires que les entreprises sont censées avoir, sont censées exercer dans le milieu. Et pour y parvenir, nous en sommes fondés sur les principes directeurs des Nations Unies pour le business et les droits de l'homme. Et que c'est ce que nous apprenons aux parties prenantes. Quelle est la responsabilité de l'État? Quelle serait la responsabilité des entreprises? Et quelle serait la responsabilité de la communauté civile ou la société civile telle qu'elle est représentée de la population? Voilà ce que nous faisons à Mwenga et que nous avons le véritable souci un jour d'arriver aussi à la traçabilité, parce que la traçabilité en soi, telle que vous l'avez demandé, c'est une responsabilité de l'État, c'est une responsabilité des entreprises et elle doit être finalement sous la supervision ou les témoignages de la communauté ou la population.
C'est justement pour changer cela que vous avez lancé ce nouveau projet intitulé vers une chaîne d'approvisionnement en produits de base digne dans le site Kivu. Le mot digne et fort, qu'est-ce qu'une entreprise digne selon vous? Selon votre projet, qu'est-ce qu'une entreprise?
Tout ce que nous faisons dans notre vie, nous sommes réellement à la recherche de la dignité. Et le mot digne, c'est ce qui mérite le secteur minier au Congo. Et c'est cette dignité selon les lois, selon les codes miniers congolais tels qu'ils révisent en 2018, elle porte sur les responsabilités sociales et sur la protection de l'environnement par une entreprise. Et donc, une entreprise sera jugée digne si elle respecte 1. Elle protège l'environnement. 2. Elle honore les droits de son personnel et des personnes qui l'utilisent. Et 3. Elle est capable de remédier aux dommages qu'elle a causés à la population. L'idéal, c'est de les prévenir.
L'idéal serait de les prévenir. Alors, comment allez-vous procéder concrètement? On sait que les lois existent, comme dans le code minier, mais elles sont mal connues au niveau local.
Voilà pourquoi j'ai fait recours aux médias. Telle qu'association, nous avons la connaissance que nous devons mettre à la portée de la population pour que cette population soit capable de revendiquer ses droits, pour que les détenteurs des droits se sentent obligés de les donner et pour que les protecteurs des droits, qui est l'État, se sentent aussi dans l'obligation d'accomplir sa mission. Et au travers de notre projet, nous avions pris le principe, le cadre fondamental des principes directeurs des Nations Unies pour le business et les droits de l'homme, tel qu'est pratiqué, tel qu'est mis en pratique par les due diligence, tel que parle dit en anglais. Ce sont des responsabilités ou bien des vérifications nécessaires que nous devons faire, que nous devons dire à la population, que nous devons amener les entreprises à faire pour voir quel est le risque avant même de prétendre faire un travail minier quelconque. Notre pays parle des études d'impact social et environnemental. Ces études-là, c'est une analyse des risques. Donc, vous devez en réalité identifier ce travail que je vais faire ici expose les gens à quel risque? Je suis exposé à violer les droits de qui? De quelle personne? De quelle nature? De quel environnement? Ou de quel sol? Est-il fait? On appelle ça mapping. Tu fais la cartographie de tes impacts. Tu regardes, moi je vais travailler à la mine de Mitobo. Le site que je vois de Mitobo appartient à qui? La première victime, c'est la personne qui cultivait à Mitobo. Tu dois vérifier quel est son droit que tu vas commencer par effleurer. Parce que déjà, avant même que tu n'amènes ton tracteur, tu connaissais qu'à Mitobo, là, je vais endommager les champs, je vais endommager le temps, et que qu'est-ce que je vais faire finalement de l'étang, qu'est-ce que je vais faire des champs. Pour arriver à Mitobo, là où je vais aller, il y aura, tu vas faire une route. Tu dois évaluer les longs de votre route de passage. Vous allez causer combien de dommages. Pour quitter Mitobo, vous aurez ainsi circonscrit les problèmes potentiels qui peuvent surgir à Mitobo. C'est ça, cartographier. Mais comme ça ne se limite pas seulement à votre mine, il faut vérifier, même moi-même, pour amener mon carburant de Bukavu à Mitobo, je vais endommager des ponts. Qu'est-ce que j'ai fait pour ces ponts? Qu'est-ce que j'ai fait pour cette route qui généralement était une route à terre battue, incapable de transporter de gros porteurs? Aujourd'hui, j'y amène des tonnes et des tonnes. Tout ça, tu dois inventorier et tu fais l'étude. Mais ça ne se limite pas là. Quand tu seras en train de creuser, tu couperas les arbres. tu couperas les herbes. Tu vas utiliser les produits chimiques qui vont intoxiquer l'eau, la terre et l'air. Tout ça, tu dois étudier au préalable. Et c'est comme ça que tu vas identifier les due diligence human rights. Ce sont des vérifications nécessaires des risques de violation des droits humains. Une fois que tu les auras identifiés, tu peux planifier la correction avant de travailler. C'est ce qui fait que ailleurs, quand on décide, on te dit avant de les faire, faites les études d'impact environnemental. Oui, tu connais déjà les risques. Hein? Oui, comment tu vas réparer les risques? Je vais faire ça, 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 ça. L'État te signe, va faire ton travail, tu connais comment tu vas le faire. S'il y aura un problème de champ, tu connais que je vais acheter les champs. Tu connais que je me suis entendu avec le propriétaire. Voilà comment ça doit se faire. Mais il faut aussi finir par la réhabilitation de l'environnement. Beaucoup de sociétés minières sont venues, ont détruit l'environnement et ils n'ont pas réhabilité. Tu as trouvé M. X agriculteur dans sa concession, tu pars, tu lui restes dans un désert de sable. Tu n'es pas responsable. C'est ça, c'est là qu'on dit que l'entreprise n'est pas responsable. Et cette responsabilité, elle est d'abord liée à l'environnement, mais elle deviendra sociale. La loi congolaise prévoit comment est-ce que les entreprises extractrices deviendront la source de financement alternative pour la génération future. Voilà pourquoi ils vous demandent des taxes. Il y a un, votre société doit avoir un concessionnaire congolais qui aura au minimum 10% de parts dans votre entreprise. Et pour le gouvernement actuel, c'est ça le plan de créer des millionnaires congolais. Que mes frères qui sont en train d'être inclus dans le projet de créer des millionnaires se sentent aussi responsables de payer l'impôt. Il est prévu que 15% de tout ce que vous allez payer comme redevance ou taxe soit réinvesti dans l'entité où vous êtes en train de faire l'extraction. Et cet argent-là doit être investi dans le social. C'est ici que une mine est censée créer les écoles, créer les centres de santé, investir dans la route. Tout ça, ça viendra de leur argent. Ce ne sont pas des dons, non. Mais il est aussi prévu que 3% de capital soit investi comme financement des projets d'avenir.
Et le deuxième pilier, et j'ai cru comprendre que le média allait jouer un rôle.
Les médias,
notamment dans des zones comme
Kamituga. Ce n'est pas seulement Kamituga et Lubumbashi. Les médias, c'est partout. Vous êtes les véritables éducateurs sociaux. Et dans les conditions où nous sommes dans un milieu rural, difficile d'accès géographique, les véhicules, les motos, l'avion, tous les moyens de transport connus formellement arrivent difficilement à Mwenga ou bien n'arrivent pas. Ne peut arriver aujourd'hui, ne peut atteindre quelqu'un aujourd'hui qu'un message qui sera transmis par les médias. C'est ainsi que nous utilisons les réseaux sociaux et nous utilisons la radio pour communiquer avec la population en espérant que nous aurons l'espace pour trouver un cadre de face à face entre les leaders communautaires et l'ICPRD autour de la même question. Voilà pourquoi nous remercions Grand Lac TV et Vision Chalat TV de Kamituga qui continuent à diffuser ces messages de sensibilisation communautaire pour le business et les droits de l'homme et les vérifications nécessaires des droits de l'homme.
Vous avez évoqué trois points qui me paraissent vraiment importants qu'on puisse quand même y toucher. Il y a, là, vous avez parlé dans le projet sur l'ignorance de la population, d'abord de ses droits. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a manque d'engagement réel des fonctionnaires de l'État dans leur travail de chaque jour. Et surtout, l'incapacité des entreprises à appliquer ce qu'on appelle la diligence raisonnable. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ces trois points dans le cadre de ce projet?
Les trois éléments que vous énoncez constituent les principaux obstacles à l'application des principes directeurs des Nations Unies dans notre contexte. 1. L'ignorance. Le business et les droits de l'homme en soi, c'est une notion qui a évolué depuis les années 70 dans le monde occidental. Elle est passée par ce qu'on appelait les normes éthiques. Elle est arrivée jusque vers les années 2000, on commençait à discuter la responsabilité sociale. Et puis, on est venu en 2011 jusqu'à une résolution du Conseil des Nations Unies sur le business et les droits de l'homme. C'est alors que les nations ont ratifié. Et plusieurs nations d'Afrique ont adhéré à cette charte, notamment le Congo. Mais combien sont arrivés à vulgariser cette loi? Comme vous l'aviez compris, c'est seulement en 2018 que nous avions revu notre code minier pour inclure les éléments relatifs au principe directeur des Nations Unies et au business. Et depuis 2018, aujourd'hui nous sommes en 2025, si tu demandes à notre population qu'est-ce qui a été introduit dans le travail de business ou de commerce minéral dans notre low-code, personne ne connaît. Tu demandes aux pauvres miniers tout ce qu'ils savent et qu'on leur a obligé d'acheter les cartes de creuseurs qui ne font que leur taxer. Mais pourquoi ils ne savent pas? Si tu demandes à la communauté locale qu'est-ce que le code minier dit de vous, ils ne connaissent pas. Le code minier les appelle premiers occupants. Jadis, à l'époque de Mobutu, on disait Mabele Abakoko. Pour dire le sol et le sous-sol appartenaient aux ancêtres. Mais ce sol-là, depuis qu'on a dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, maintenant les propriétaires primaires de la terre ont été appelés premiers occupants dans le code minier. Ainsi, pour dire que qu'est-ce qui est prévu pour comme droit des premiers occupants? C'est une indemnisation, mais ils ne connaissent pas. Voilà ce que je peux circonscrire comme ignorance de la population, même du cadre, la manière dont on recrute les gens dans notre système. Je ne sais pas si toi tu as déjà vu une offre où on veut recruter quelqu'un dans le secteur minier et on veut savoir s'il a été capacité dans les principes directeurs des Nations Unies sur le business et les droits de l'homme. Allez à la faculté de géologie, vérifier si tu vas trouver un chapitre qui parle de ça. Donc, l'enseignement formel est déconnecté de la pratique, de même que le travail est déconnecté de ce que le ministre signe. C'est le ministre qui a signé probablement à Kin pour répondre à l'exigence qu'un partenaire lui avait demandé. Mais qu'est-ce que j'appelle manque d'engagement formel de l'État? Parce que c'est l'État qui a ratifié au moins le protocole. C'est un ministre national congolais qui a qualité de ratifier, ou le président lui-même, ce protocole. Et le Congo est connu comme scandale géologique depuis 1985. Il y a un géologue belge qui a fait la prospection du Congo. Vous vous imaginez que nous sommes au 18e siècle et il pouvait amener les termes que c'est les termes-là que tu attends toujours. Scandale géologique, il date du 18e siècle. Dès que le Congo, il n'y a aucune loi portant sur les mines qui ne considère pas la situation du Congo. Et que s'il y a un pays qui était censé être bien régulé dans la gestion des mines, c'est le Congo. Mais malheureusement, c'est le même pays-là qui est victime d'une administration prédatrice. La prédation, elle s'organise comment? L'État fait l'alliance avec les entreprises pour qu'ils extorquent le minerai contre la population locale et contre les droits des premiers occupants, contre les droits de leurs propres agents. C'est seulement au Congo où un agent qui produit des millions, il n'est pas payé à base de SMIC. Si tu vas à Mwenga, tu vois les agents, le personnel des Chinois n'ont pas de SMIC, n'ont pas de contrat. Et ça, ce sont leurs agents. Alors, quelqu'un qui n'est pas capable de faire soigner son confrère chinois, quand est-ce qu'il se souviendra d'un pauvre Congolais qui a vu sa maison être détruite en dépassage? Et donc, je ne vois pas, moi, la population réclamer un tel droit. C'est l'État qui doit s'engager à demander à ses partenaires de respecter les droits de l'homme et la protection de l'entreprise. Et en dernier lieu, quand je dis que les entreprises n'ont pas de volonté, c'est parce que moi, je m'imagine, tu quittes le Japon pour venir faire l'exploitation minière au Congo. La première des choses est que tu dois lire la loi congolaise. Tu ne peux pas prétendre amener des millions dans un pays sans que tu ne saches que disent les lois de ce pays par rapport à mon argent ici. C'est qu'eux, ils ont la connaissance, mais ils se décident délibérément de ne pas faire le bien. Ou bien ils s'abusent de notre population rurale parce qu'ils sont sous-informés, moins protégés, vulnérables, pauvres, et lui aussi, il amène toute sa force pour les mater davantage. Il finit par les déguerpir de son champ, les déguerpir de ses terres, et finalement, il se fait protéger par l'armée pour devenir le plus fort. Donc, délibérément, ce sont les entreprises qui ne veulent pas faire les diligences raisonnables. Et pourtant, ce sont des simples principes éthiques qui doivent conduire toute entreprise sérieuse. Et attention, les principes directeurs des droits humains veulent qu'une entreprise qui produit sans respect de ces principes finira par ne pas avoir un marché où vendre. Un jour, les coltans que vous volez, parce que ça devient un minerai de sang, ça devient un minerai tintin de la vie des vulnérables par la violation des droits de l'homme. Personne ne va l'acheter. Tu finiras par en trouver et en amener au marché noir. Tu perds le prix qu'il te faut et tu risques de ne pas rembourser ton argent. Voilà les risques et les garants. Mais c'est seulement la marque de volonté de ces entreprises. Ils ont tout à leur portée, mais ils sont animés par le capitalisme. Ça crée en un conflit de conscience entre la maximisation des intérêts et la redevance éthique de perdre pour l'intérêt, pour impacter son environnement et sa communauté hébergeante.
Nous savons très bien que ce projet est exécuté concomitamment avec un autre. Est-ce qu'il n'y a pas un chevauchement concrètement? Comment ce projet est différent de l'autre?
Nous avons un projet que nous exerçons avec les MCC, les Mennonite Central Committee. Ce projet-là est focalisé sur la chefferie de Wamuzimu, où, bien sûr, nous travaillons toujours dans le contexte de business et de droits humains, mais là-bas, notre thématique principale, c'est la paix. Et nous avions compris qu'il n'y a pas de paix à Mwenga à cause de l'exploitation illicite des minerais. Et après que les groupes armés étaient en train de finir, les conflits qui émergeaient avec le risque d'amener les gens à reprendre les armes, c'était la guerre entre les artisanaux et les miniers ou la population locale qui voyait ces ressources naturelles être pillées sans qu'ils ne reçoivent un investissement à contrepartie. C'est dans ce cadre que nous avions conçu le projet MCC. Mais le projet ici que nous faisons avec Rafto Foundation, Bergen, c'est un autre projet où nous travaillons effectivement sur les diligences raisonnables, sur les vérifications nécessaires des violations, des présumées violations des droits humains. Nous voulons travailler préventivement en vulgarisant la connaissance, qu'on quitte la théorie des principes directeurs des Nations Unies sur le business et les droits de l'homme, mais qu'on l'amène dans la pratique. Si je dis je suis entreprise, quel est mon devoir? Si je dis moi que je suis un agent de l'État, quel est mon devoir? Si je dis moi que je suis membre de la société civile à Mwenga, quel est mon devoir? Voilà ce que ce projet de l'AFTO a en particulier par rapport à l'autre projet. Et puis ce projet-ci cible les communautés habitant dans les grandes agglomérations. C'est elles qui écoutent votre média. Et je parle de la population de Kamituga, je parle de la population de Kitutu, je parle de la population de Lugusha, de Mwenga Centre, tous les territoires en fait, nous voulions avoir des feedbacks. Et pour ne pas vous tromper, nous sommes déjà en train de produire le premier rapport. Nous avons les éléments de preuve, de conviction pour l'audition. Nous avons les messages, une cinquantaine de personnes qui réagissaient à nos messages. Imaginez-vous que nous avions eu les messages venant de Bourigny, l'extrême nord du territoire. Et au-delà, on a trouvé des messages venant de Itula. Itula, Itula c'est à Chabunda. Nous ne pouvons pas donc nous lasser de continuer à faire ces émissions. Notre souhait, c'est de voir vraiment les territoires en soi être suffisamment informés et toute son élite s'engager pour que les entreprises qui viennent chez nous manifestent une responsabilité sociale, manifestent une responsabilité environnementale et qu'ils investissent dans la durabilité, parce que les gens survivront du minerai, du revenu des minerais après les minerais.
Petit à petit, nous nous rapprocherons de la terre promise, mais pas l'enfer. Et pour conclure, docteur, si ce projet réussit, à quoi ressemblera Mwenga dans quelques années? Est-ce qu'on se rapproche enfin à la terre promise selon vous?
Le projet s'intitule Towards the Dignified Business of Strategy in Mwenga, qui signifie vers l'exploitation digne des minerais de Mwenga. Les jours que nous y arriverons, imaginez-vous que à Mwenga, moi, je ne cesse de me plaindre parce qu'il y a des minerais à quantité colossale que si chacun investissait à Mwenga, je retournerai un jour à Mwenga en train de conduire sur une route avec Macadam. Je trouverai à Mwenga des infrastructures sociales construites par les financements émanant de l'exploitation minière. C'est comme ce que vous voyez aujourd'hui à Kolwezi. Ce n'est pas que Kolwezi n'en avait pas, mais c'est seulement le jour où l'État a accepté de payer, de contraindre les entreprises à payer à la communauté de Kolwezi ses responsabilités sociales et environnementales. Aujourd'hui, vous voyez des investissements. Ça ne vient pas de l'Europe, ça ne vient pas du Japon. Non, c'est juste la volonté politique qui contraint les miniers à financer l'argent qu'ils payent dans l'impact social et environnemental.
Merci beaucoup, docteur, de nous avoir présenté ce projet porteur d'espoir pour les sites qui vous.
Merci aussi, monsieur le journaliste.
Chers auditeurs, la richesse de notre sol ne doit plus être une malédiction. C'était Terre promise ou enfer. Terre promise ou enfer est une émission produite par l'organisation Initiative chrétienne pour la paix, la réconciliation et le développement ICPRD, une organisation active dans le territoire de Mwenga et qui œuvre dans la promotion de la paix, la pacification, la bonne gouvernance des ressources naturelles, ainsi que le business et les droits humains, en collaboration avec ses partenaires dont la MONUSCO, le MCC et la Fondation RAFTO. Merci à Vision Chala FM Kamituga qui diffuse nos émissions que vous pouvez suivre en podcast sur www.grandlactv.info et sur d'autres plateformes digitales. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro.